Il y a l'Observatoire du développement de l'Outaouais qui est une organisation assez intéressante qui vient avec des constats qui se penchent sur certains enjeux ou réalités en Outaouais. De là son nom, l'Observatoire du développement de l'Outaouais. Donc, c'est toujours bien intéressant de voir et de se pencher sur les travaux de l'organisation. Et un des récents projets, ça a été de mettre en lumière les déserts alimentaires en Outaouais. Un désert alimentaire, qu'est-ce que c'est? On pourra établir les critères qui ont été, en fait, qui ont été déterminés pour arriver à dire que c'était des déserts alimentaires. Mais chez nous, dans la vallée de la Gatineau, ben, c'est un enjeu qui résonne fortement. Pour nous en jaser, ben, on a au bout du fil de l'Observatoire du développement de l'Outaouais, Alexandre Bégin. Vous êtes agent de recherche pour l'organisation. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ben, c'est le plaisir est pour moi parce que, bon, c'est comme je disais, c'est pas d'hier qu'on a des conversations des fois là-dessus avec des collègues ou qu'on entend parler des gens qui disent « Écoute, on est dans un désert alimentaire, puis oui, qu'est-ce qui est quoi la définition? » Parce qu'on a accès à des petits marchés, des dépanneurs, on a quand même une certaine offre alimentaire, mais c'est sûr que les supermarchés, les grandes chaînes d'alimentation sont à Gracefield et à Maniwaki. Donc, la première question, en fait, que je voulais vous poser, M. Bégin, c'est quelle est la démarche? Expliquez-nous là, le travail qui a été fait justement à ce niveau-là par l'ODO.
Oui, bien, en fait, c'est une étude exploratoire là, qu'on a fait. On pourrait éventuellement aller beaucoup plus loin, mais pour définir les déserts alimentaires, bon, sur la définition là, de l'Institut national de la santé publique, puis en milieu rural, en fait, ça représente deux choses, si on veut. La première, c'est qu'on considère qu'un désert, c'est un endroit qui se situe à peu près à 16 km à vol d'oiseau d'un supermarché ou d'une épicerie. Par contre, là, ici, on n'a pas compté les dépanneurs qui, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a de l'offre alimentaire parfois, mais souvent, pas une très grande offre. Donc, ça, c'est la première chose, 16 km en milieu rural d'un supermarché ou une épicerie. Et la deuxième, on regarde, en fait, si ces communautés-là qui se retrouvent dans des déserts alimentaires, on regarde s'ils sont aussi d'un point de vue socio-économique, s'ils sont défavorisés. Ce qu'on se rend compte dans la vallée de la Gatineau, en fait, c'est qu'on... Si on compare à l'Outaouais, c'est des communautés qui sont défavorisées matériellement. Fait que souvent avec des taux d'emploi un peu plus bas, des revenus plus bas. Ce qui peut faire en sorte que bon, le désert alimentaire puisse augmenter les inégalités, bon, entre autres en faisant augmenter les prix là, des denrées alimentaires.
Et un des constats, c'est, je le disais tout à l'heure, en le disant, on peut aussi présumer du constat, quand je disais que c'est Maniwaki et Gracefield où on retrouve, par exemple, les bannières Métro, Maxi et compagnie, si on s'éloigne, plus on s'éloigne de ces deux centres-là, plus on va dans les extrémités de la région, c'est là qu'on retrouve les plus grands déserts. Donc au sud, au nord, on parle de Grand Remous, Mont-Serre-Flétune, Denombe, Lac-Sainte-Marie, Casabazoua, l'eau également. Donc plus on s'éloigne, plus on retrouve ce genre de désert alimentaire-là.
Oui, effectivement. Puis même, on entendait la semaine dernière, là, la mairesse de Grand-Remous nous dire que bon, les citoyens de Grand-Remous ont souvent à faire 70 km là, aller-retour pour accéder à des supermarchés, là, ce qui est quand même énorme d'un point de vue d'organisation, mais aussi en coût pour aller obtenir ces biens-là. Puis, l'autre élément qui est important, c'est dans la vallée de la Gatineau, comme je le disais, en milieu rural, on utilise 16 km à vol d'oiseau. Mais bon, disons, à Maniwaki, il est possible qu'il y ait des citoyens qui soient, qui n'ont pas de voiture non plus. Donc, peut-être qu'au sein même de Maniwaki, on pourrait retrouver d'autres déserts alimentaires, là, où des gens ont à marcher, et puis plus d'un kilomètre. Puis en ville, normalement, c'est un kilomètre, là, qu'on mesure. Donc, il y en a peut-être qui sont sous-estimés aussi au sein de Maniwaki. Puis, l'autre élément qui est important de dire, c'est que bon, les plus grands déserts alimentaires, vous l'avez dit, c'est Mont-Serre-Létune, Grand Remous, un peu plus dans les extrémités. Mais il y a aussi des endroits où il y a des épiceries qui sont accessibles, mais pas nécessairement des supermarchés. Puis ce qu'on constate, c'est quand il y a des supermarchés, il y a souvent une pression à la baisse des prix, ce qui fait en sorte que, bon, ce qu'on appelle là où il y a un accès à une épicerie, on pourrait appeler ça un marais alimentaire, parce que il n'y a pas une offre aussi grande que s'il y avait un supermarché, mais il y a quand même un flou que peut-être des prix plus élevés puis une offre un peu moins grande que dans les villes, par exemple.
Oui, ben, puis c'est ça résonne chez nous. Écoute, moi, si je prends l'exemple de chez moi, à Messine, j'ai à moins d'un kilomètre, j'ai accès à un dépanneur et un marché. Mais au marché, c'est ça. Souvent, je dois revirer de bord parce qu'il n'y a pas ce que je cherche. Je dois aller au métro, au Maxi, qui est là à une quinzaine de kilomètres aller, retour sur une trentaine de kilomètres. Donc, quand on parlait du 16 kilomètres, juste qu'on précise, est-ce que c'est de l'aller-retour ou l'aller seulement?
En fait, le 16 km est calculé à vol d'oiseau. Donc, l'aller-retour, en fait, serait pas calculé là-dedans. Okay. Puis l'autre chose qui est importante à dire, c'est comme on l'a fait à vol d'oiseau. En milieu rural, 16 km à vol d'oiseau, bon, ça peut donner l'impression que le village à côté, disons, du supermarché est pas dans le désert alimentaire. Par contre, on le sait, là, en milieu rural, les chemins font parfois en sorte qu'un 16 km en ligne droite, ça peut être, disons, 40 km là,
exact.
Pour passer par des petits chemins. Donc, ce qui est certain aussi avec notre étude présentement, qui est exploratoire, il faut le dire, c'est qu'on sous-estime certainement l'apport là, de l'ensemble des déserts alimentaires qui existent aussi. Là.
Puis ça sert à quoi? Une fois qu'on a ce portrait-là, parce qu'on sait que l'exercice a été fait en 2017, donc là, on avait pris une espèce de portrait de la situation en 2017, là, on le recommence en 2024. C'est quoi cet outil-là? Vous sert à quoi? Elle sert à qui?
Oui, très bonne question. En fait, comme je vous le dis encore une fois, c'est une étude exploratoire, mais elle permet d'identifier bon les endroits où il y a des populations plus vulnérables. Parce que, comme je disais, bon, il y a certains déserts alimentaires, si on les croise avec les endroits où, en plus, bon, il y a des inégalités économiques, ben ça peut permettre de croire qu'il y a des populations plus vulnérables, plus à risque d'un point de vue économique, entre autres, peut-être d'un point de vue social aussi. Puis il y a des enjeux de santé publique liés à ça. On peut penser, entre autres, si les gens ne mangent à partir de la nourriture d'un dépanneur seulement, ben il manque probablement d'offres alimentaires suffisantes là, pour que ça soit bon pour la santé de la population. Donc, ça permet, entre autres, aux partenaires en sécurité alimentaire de se questionner, à savoir bon comment on peut aider peut-être les populations qui sont plus vulnérables.
Est-ce qu'il y a un autre élément, vous, que vous trouveriez intéressant à noter?
Oui, bien, en fait, faut comme je disais, comme c'est une étude exploratoire, tu sais, ça serait intéressant, puis je pense que l'Observatoire, entre autres, va se pencher là-dessus de plus en plus. Dans le cadre du projet qu'on fait présentement sur le portrait des communautés qui offrent des données, si on veut, socio-économiques puis sanitaires, sur toutes les communautés de la région, ben nous, on va aller un peu corroborer ces données-là puis aller chercher plus de finesse en discutant avec les communautés et les gens pour vraiment savoir est-ce que eux, c'est vécu. Ben bon, des fois, on peut être dans un désert alimentaire, mais que ça se ressemble pas nécessairement de tout le monde. Fait qu'on va vraiment aller plus loin pour essayer de voir bon où est-ce que les enjeux sont plus précis, puis essayer de peut-être mettre ça en lumière davantage encore.
Ben écoutez, c'est fort intéressant. Puis là, j'ai reçu même un petit message de M. François Pays. Donc, je vais avoir bien hâte, là, il nous a déjà écrit. J'ai bien hâte d'avoir son point de vue par rapport aux enjeux que ça soulève et justement là, au point de vue de l'organisme de concertation sur la faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça résonne chez eux? Alexandre Bégin, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous. Vous êtes agent de recherche pour l'Observatoire du développement de l'Outaouais. C'est un plaisir de vous parler.
Merci beaucoup, M. Parent. Merci de l'invitation. Au revoir.
On poursuit la discussion avec M. François Pays, directeur de la table de concertation sur la faim et le développement social de l'Outaouais, pour parler des enjeux que soulève la présence de ces déserts alimentaires dans la région de l'Outaouais, mais spécifiquement dans la vallée de la Gatineau.